Radio Okapi. Écho du développement. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de l'environnement et développement durable sur Radio Okapi, Écho du développement axé sur l'importance de mener des actions de protection de l'environnement et les bons gestes à poser pour protéger cet environnement. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou avec la collaboration de Jean Castani depuis Bukavu au Sud Kivu, Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ces magazines et Jean-Noël Mokondo assure la prise des sons. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de ces magazines.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous. Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmesleadersrdc@gmail.com.
D'après les spécialistes, les systèmes naturels de l'environnement sont fournisseurs d'espace, des services et des ressources nécessaires à la vie, d'où une interaction dynamique entre l'homme et l'écosystème. Cet environnement dont l'homme est à la fois produit et créateur est constitué de trois éléments fondamentaux. Il s'agit notamment de l'eau, du sol et de l'air. L'homme a donc le devoir de se servir de l'eau, du sol et de l'air. Malheureusement, à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC, les déchets tant solides, liquides que gazeux dégradent les cadres de la vie et sont à la base de la pollution de toute nature. Quelle est l'importance de mener des actions allant dans le sens de la protection de l'environnement et quels sont les bons gestes à poser pour protéger l'environnement? Ce sont les questions qui sont au cœur de ces numéros des Codes du développement produits en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de suivre la déclaration de Ladislas Wetanene, assistant du coordonnateur de la société civile du Sud Kivu qui soutient la mesure d'interdiction d'importation et de l'utilisation des sacs en plastique qui polluent les lacs Kivu, la rivière Ruzizi et les lacs Tanganyika. Écoutons sa déclaration.
Nous soutenons les moratoires du gouvernement sur l'importation des emballages plastiques en RDC. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la ville de Bukavu, la ville elle est devenue sale. Les sachets, mais aussi les bouteilles plastiques, c'est partout dans la ville. C'est pourquoi nous soutenons l'idée, mais aussi nous demandons au gouverneur de la province du Sud Kivu de nous soutenir dans la campagne dénommée « Zéro plastique passeront par nos frontières au Sud Kivu ». Nous voyons d'abord les écosystèmes, par exemple les lacs Kivu, la rivière Ruzizi, mais aussi les lacs Tanganyika. C'est là où maintenant il y a des poubelles pour le moment. Et si vous regardez dans les poubelles, il n'y a que des sachets, il y a des plastiques. Et nous, la société civile, nous disons non, non, non à l'importation des déchets plastiques au niveau de la province du Sud Kivu pour sauvegarder ces écosystèmes à l'intérêt de tout le monde. Et il y a des associations qui sont maintenant spécialisées en fabriquant les emballages biodégradables. Et donc si les gouvernements peuvent nous accompagner, je pense que nous allons aboutir à la solution par rapport à ça.
Merci à Jean Castami qui a recueilli cette déclaration pour le compte d'Éco du développement à Bukavu dans la province du Sud Kivu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement commémorée le 5 juin de chaque année.
Adieu au peuple.
C'est quoi l'environnement? C'est la question que certaines personnes se posent. Selon nos sources, l'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. D'après le professeur Mathé Mouirou Jean-Pierre, secrétaire général académique de l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux et raïfs en sigle. Pour la petite histoire, c'est depuis 1974 que les Nations Unies ont décrété le 5 juin de chaque année comme étant la journée mondiale de l'environnement.
Le concept environnement, c'est un concept très complexe, polysémique, parce que quand on met la définition de l'environnement, c'est l'ensemble des facteurs physiques, sociaux, chimiques, tout ça qui est susceptible d'influer sur l'homme et sur les activités humaines. C'est-à-dire, l'environnement, c'est un peu un tout, y compris l'homme. Donc, l'homme et ses interactions avec son milieu ambiant. Hein? Dans ces interactions, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et l'ensemble, ça forme l'environnement. Dans l'environnement, on trouve la biodiversité. Et pour les cas d'espèces, la journée que nous célébrons, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'est depuis 1974 que l'humanité a pris conscience de cette journée-là. Et chaque année, le 5 juin, et on essaie de définir un thème qu'on va développer. On définit aussi le pays qui va abriter l'événement. Par exemple, cette année, le thème qu'on a choisi, c'est la lutte contre les matières plastiques. En fait, depuis un certain temps, avec l'évolution de la technologie, on a remarqué que l'homme produit plus de plastique maintenant. Et si bien que ça pose un problème au niveau de l'environnement parce que le recyclage, l'utilisation rationnelle, souvent ne suit pas, surtout dans les pays, est moins développé. Alors, ces plastiques-là se retrouvent dans les cours d'eau, ces plastiques se retrouvent sur la terre ferme, et ça joue négativement sur la biodiversité. Dans la salle, on a donné un exemple, le fait, par exemple, que certains animaux aquatiques, ils confondent le plastique à leur nourriture, ils mangent le plastique et ils finissent par mourir. C'est le cas d'une baleine qu'on a retrouvée avec 8 kg de plastique. Il y a beaucoup d'espèces comme ça. La tortue marine est menacée aujourd'hui de disparition parce qu'elle consomme entre autres des matières plastiques qui sont déversées dans les océans. Et ça constitue vraiment un impact négatif sur la biodiversité. Quand on sait que la vie de l'homme vit et dépend de la biodiversité, alors ça doit attirer l'attention du monde entier. Comment gérer durablement ces plastiques-là qui est en train de détruire la biodiversité.
Bon, est-ce qu'il y a des solutions durables sur la gestion des sacs en plastique parce que la thématique annuelle, c'est la lutte contre les pollutions plastiques.
Voilà, il y a des solutions durables. Et je pense que ici, les solutions peuvent se trouver en amont tout comme en aval. Et moi, ce que j'encourage, c'est agir en amont. Hein? Bon, je donne un exemple simple. Certains pays africains comme le Rwanda, aujourd'hui, on voit que sur le plan politique, ils ont pris beaucoup de décisions courageuses pour décourager le plastique. Parce qu'au Rwanda, aucun emballage plastique ne peut entrer au Rwanda. Ils ont interdit ça et le gouvernement a mis en place des emballages biodégradables. Que vous soyez qui vous voulez entrer au Rwanda avec les sachets plastiques, ça ne marche pas. Vous pouvez vous promener dans toutes les rues du Rwanda, tout ça, c'est difficile, très rare de trouver un déchet plastique quelque part. Parce qu'il y a une décision du gouvernement en amont pour introduire toute production des emballages plastiques. Voilà un peu, si le plan politique, si on agit en amont, on réduit aussi l'ampleur des plastiques. On peut aussi agir en aval. Par exemple, dans les cas de recyclage, hein, ces déchets plastiques sont là. Et si on sait les trier, très bien, et on sait aussi, avec une politique publique, procéder au recyclage de ces déchets-là.
La lutte contre les pollutions plastiques, c'est la thématique choisie pour la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement édition 2018. L'Organisation des Nations Unies exhorte les gouvernements, les industries et les communautés locales à s'unir pour lutter contre la pollution par les plastiques, car la production et l'utilisation excessive des sacs en plastique à usage unique pollue les cours d'eau, dégrade les sols et menace la santé de l'homme. La gestion rationnelle de l'environnement doit interpeller toutes les nations du monde, d'après Bart Ouvry, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Pour nous, la question de l'environnement, elle est fondamentale. C'est une question non seulement qui interpelle les Congolais, c'est une question pour tous les Africains, et en fait, c'est une question pour les Européens, et en fait, pour toute la planète. L'environnement, nous l'utilisons, ces ressources naturelles sont importantes pour nous, et nous savons qu'aujourd'hui, l'utilisation que nous faisons, particulièrement à l'Occident, mais déjà aujourd'hui aussi en Afrique, n'est pas durable. Et donc, nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos petits-enfants, de réfléchir et surtout de réaliser, de mettre en place des solutions. Et ça, c'est ça la question qui nous interpelle en Europe, mais aussi dans nos relations externes, dans toute notre politique en faveur du climat, éviter un changement de climat qui risque de rendre une partie de l'Afrique tout à fait inhabitable. C'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question aussi de politique, de volonté politique de mettre en place et de respecter certaines règles fondamentales que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Et donc là, moi je crois que c'est une question de sensibilisation. Il faut que les gens qui soient en place, les acteurs économiques, mais aussi les populations, soient conscients que les solutions sont bien là, qu'il faut les appliquer. Et ça demande un investissement en termes d'argent, de moyens, mais aussi de sensibilisation. Et c'est là où nous devons, d'une manière commune, tous en tant que citoyens, moi aussi je vis à Kinshasa, je vois les problèmes, par exemple en matière de plastique qui sont dans les cours d'eau. Il faut d'urgence appliquer les recettes qui sont largement connues. Je crois que récemment j'étais au Congo central, et le Congo central ces 50 dernières années a perdu une belle partie de sa couverture en forêt. Et là on voit les effets. La pluviométrie, les pluies ont diminué de 40%. Et je vois qu'aujourd'hui, ça reste tenable, mais si on réduit encore plus la couverture en forêt au Congo central, mais aussi dans d'autres provinces, on risque d'avoir des effets négatifs. Par exemple, Inga, le projet de Inga 3, c'est un projet tout à fait intéressant, important pour la RDC, mais aussi pour d'autres pays d'Afrique. Mais s'il n'y a pas la pluviométrie suffisante, ce projet ne sera plus rentable. Et donc là, c'est un vrai questionnement sur lequel nous sommes en dialogue avec tous nos partenaires internationaux et avec le gouvernement de la RDC. Et c'est un engagement commun d'éviter justement cette réduction de la couverture en forêt de la RDC et d'autres parties de l'Afrique. C'est un enjeu pour nous tous, collectif. C'est pour toute la planète. Vous savez, la RDC et les pays environnement contiennent une des plus grandes réserves en forêt au niveau mondial, et donc c'est une responsabilité commune dans laquelle nous aussi, Union Européenne, nous sommes engagés.
Monsieur l'ambassadeur, à titre symbolique, vous avez planté un arbre, qu'est-ce que cela représente pour vous ?
Pour moi, c'est un engagement que nous pouvons tous prendre en commun. Vous savez, j'ai le privilège à Kinshasa d'habiter dans une maison avec un jardin. Moi, j'ai veillé à planter des arbres. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. C'est un acte citoyen. Et de cette manière, je partage quelque part une action que peuvent entreprendre beaucoup de Congolais et beaucoup de citoyens de ce monde.
Radio au peuple.
Vous êtes en train de suivre Écho du Développement, le magazine de Radio Capi, qui s'intéresse aujourd'hui à l'importance de mener des actions de protection de l'environnement et les bons gestes à poser pour protéger cet environnement. Il n'y a pas que les sacs en plastique qui polluent l'environnement. À Kinshasa, par exemple, l'occupation des sites maraîchers et des espaces verts, l'insalubrité, le déversement des déchets urbains dans les caniveaux et rivières et l'absence d'un programme d'écurage régulier des rivières, caniveaux et autres cours d'eau démontrent à suffisance que les normes environnementales ne sont pas vulgarisées et respectées. Ce n'est pas tout, la coupe incontrôlée des arbres est à la base du changement climatique. Voilà pourquoi certaines ONG locales et internationales encouragent les reboisements. À titre symbolique, quelques arbres à croissance rapide ont été plantés dans les sites de l'Eraïft à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement.
Là, c'est l'Iroko.
Oui. Il doit lever le fâché.
Oui.
Ça, je sais quand même.
Je peux vous donner une lame de rasoir? Ah, là, ça va alors.
Ah, encore le plastique, hein?
Non, nous enlevons le plastique.
Le thème de la réunion, c'est plastique.
Ah oui. Encore un peu?
Oui, ouais. C'est bon.
C'est bon?
Oui, il va mettre les mains d'abord là.
En regardant les caméras, monsieur l'ambassadeur.
C'est le Kambala.
Ah, Kambala.
Kambala.
Alors, parce que j'ai passé mon examen.
Oui, très bien. Monsieur l'ambassadeur, je vous présente d'abord votre arbre. Là, vous avez Mesorcis hemini. C'est une espèce des forêts d'Afrique. C'est un bois d'œuvre également, un bois de chauffe et une espèce à chenille. Donc en matière de lutte contre, oui, le fruit aussi est comestible, donc en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, vous allez apporter votre pierre à l'édifice.
Très bien.
En plantant cet arbre.
C'est un gros arbre ou...
Oui, et puis on l'appelle en anglais umbrella tree, il donne beaucoup de branches.
Oui.
Il présente une croissance très rapide, oui.
Et en très peu de temps, si on est dans une zone où il y a un problème de bois énergie, de bois de chauffe, en
voilà.
Très peu de temps, on peut avoir des bois de chauffe avec ça.
Ouais.
C'est un peu comme les acacias qu'on plante là-bas,
c'est ça,
la vitesse de croissance.
Ah, ouais.
L'avantage, c'est une plante locale.
Locale.
Voilà, qui présente un peu des propriétés comparables à acacias.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on mange dans cet arbre-là pour la sécurité alimentaire?
Des chenilles, il y a des chenilles qui les appellent. Et le fruit aussi.
Le fruit, hein.
Oui, les chenilles et les fruits.
Ouais.
Si vous regardez...
Dans mon jardin.
Oui.
Deux.
Hein? Ah,
oui.
Ah, des mésophytes, hein.
La gommée, il y en a deux.
De l'ambassadeur, vous avez terminé, docteur Norisco Zabella.
C'est un très bon exemple à suivre. Imaginez-vous si chacun de nous s'est donné le devoir de planter un arbre fruitier dans son milieu immédiat. Cela va contribuer énormément à la sécurité alimentaire et à l'amélioration du climat. Rentrons encore une fois de plus dans l'espace réservé au reboisement à l'Éraïste où Ernestine Lompitipi, coordonnatrice du réseau africain pour le développement durable intégré, nous présente les différentes espèces d'arbres plantés en marge de la célébration de la journée mondiale de l'environnement.
Lui, c'est Ricinodendron edeloti,
oui,
espèce des forêts d'Afrique. C'est une espèce de plante à chenilles aussi.
Oui.
Les graines sont comestibles. Pour les Camerounais qui sont ici, on l'appelle, c'est l'arbre anjansa, dont les graines sont comestibles. C'est également le bois, c'est un bon bois de coffrage également. Ricinodendron edeloti. Croissance très rapide, pour faire les bonnes sauces vraiment. Mais j'ai vu à Kisangani, j'ai vu des mamans qui font bouillir les graines et qui mangent. Hein.
Oui, oui, oui.
Sur l'axe Masako, comme les cacahuètes.
Mais au Cameroun, par rapport à beaucoup de pays d'Afrique, au Cameroun, on est passé vraiment à la transformation des produits forestiers non lignés. Ils extraient de l'huile à partir de ces graines, tout ça, ils conditionnent, tout ça. Mais dans beaucoup de pays, ça reste encore à l'état sauvage. L'avantage de ce bois aussi, dans les milieux reculés, la plupart des cercueils, on les fait avec le bois de, parce que un peu le bois de coffrage, tout ça. Comme la plante est bien distribuée, donc, ça joue un rôle social important. À Lingala, maman. J'essaie un dialecte là chez Akisangani, on l'appelle Péké. Bon, il y a beaucoup de noms.
Il y en a qui l'ont appelé Lisongo-Songo. Et c'est, non, ça, c'est pas incessant. Non, c'est pas incessant.
Ce qu'on doit retenir la plante ici, c'est l'arbre par excellence pour les chenilles. En tout cas, à un moment donné, vous allez voir que les chenilles vont commencer à coloniser la plante.
Ça, c'est une jansa. Lui, c'est Trekulia africana. Trekulia africana. Arbre à pain d'Afrique. Espèce qui donne de très beaux fruits, très bons, très riches en vitamine A, D et E également. Et c'est une espèce dont on a utilisé les graines au niveau de Kisangani pour soigner les bébés qui étaient atteints de kwashiorkor. Donc en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire, il est très bien. Et également, il produit beaucoup de fruits. Dans la littérature, on nous dit que son arbre peut donner en moyenne 500 kg de fruits hein, en une production. Donc c'est très bien.
Je donne un complément de formation là.
Oui.
À Kisangani, dans les zones forestières, on peut avoir un fruit, je dis bien un seul fruit, qui pèse jusqu'à 30 kg. 30 kg. Parce qu'il y avait un projet là autour de ça, c'est pour aller récolter les fruits de Trekulia, extraire les graines. Et à partir de l'amande, là, essaie de faire la farine pour soutenir les enfants qui souffrent de malnutrition. Et c'est la plante ici qui était suivie là. On a trouvé des fruits. Un fruit qui pèse 30 kilos. Et dans ce fruit-là, il y a environ 3000 graines. Et ces graines sont très riches en protéines. On a même analysé la teneur en acides aminés. Dans ces graines-là, on avait remarqué que les protéines qui sont dans les trekulia sont comparables aux protéines qu'on trouve dans la viande. C'est comme ça que dans les villages, les ancêtres consommaient ça, les trekulia, ça, tout ça, et ils sont en bonne santé parce que il y a trop de protéines dans ces plantes-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est parmi les essences qu'on peut valoriser pour la sécurité alimentaire.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo,
c'est le beau visage du Congo mis en avant. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Les arbres contribuent à la lutte contre les changements climatiques, d'après le professeur Matemoirou Jean-Pierre, secrétaire général académique de l'ERAIFT. C'est dans ce cadre que le projet Campus Vert est mis en place dans le but d'encourager les communautés locales et les étudiants à planter les arbres dans leur milieu immédiat.
Les arbres sont plantés ici, comme vous le savez maintenant, l'humanité est en train de déplorer ces grands phénomènes qu'on appelle changement climatique. La température a tendance à s'élever et une des solutions pour essayer de maintenir la température à un niveau acceptable, c'est qui est ce qu'on appelle le puits de carbone. Dans le puits de carbone, on voit la nature, les arbres, qui en croissant, ils peuvent capter le CO2. Le CO2, c'est un des gaz à effet de serre, un des gaz qui éteint le réchauffement. Il n'est pas le seul, mais c'est le gaz le plus important. Alors, en essayant de planter beaucoup d'arbres, on constitue beaucoup de carbone qui vont piéger, qui vont séquestrer le CO2, et cela, avec cela, on peut lutter pour une élévation de la température. Alors, ça c'est un premier aspect, donc lutter contre le changement climatique. Aussi, ici au campus, on voudrait montrer aux gens un système agricole durable, c'est-à-dire associer les arbres et les cultures sur le même terrain, ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'idée c'est quoi? L'idée c'est montrer une autre façon de travailler qui constitue un substitut, un remplacement à l'agriculture transhibrillée. Parce que l'agriculture transhibrillée, ça entraîne la dégradation de l'environnement, ça entraîne l'élévation de la température. Ici, on voudrait vraiment montrer aux gens une façon de combiner les arbres et les cultures. Et à ce moment-là, on fait un système qui est durable pour essayer un peu d'éviter l'agriculture qui entraîne l'érosion de la biodiversité. Alors, en plantant les arbres ici, c'est lutter contre le changement climatique, c'est lutter contre les systèmes qui détruisent la biodiversité, l'agriculture transhibrillée, et c'est lutter aussi contre les têtes d'érosion qui menacent les campus. Les campus sont menacés par les têtes d'érosion. Là, il y a des têtes d'érosion, on essaie de mettre les plantes adaptées. Quand ils vont grandir, tout ça, ils vont constituer un frein pour réduire l'érosion. Hein? Donc, nous voulons, par cet acte qui est ici à l'ERAIF, sensibiliser les étudiants de l'INIKIN. Il y a plus de 20 000 étudiants à l'INIKIN qui doivent comprendre qu'il y a façon de travailler autrement et pour avoir des productions durables.
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, professeur. Quelles sont alors les bonnes pratiques que nous devons poser pour préserver l'environnement?
Chacun de nous doit être ce qu'on appelle un éco-citoyen. Un citoyen écologique, c'est ça, éco-citoyen. Un citoyen qui doit tenir compte des aspects environnementaux dans tous les actes qu'il veut poser. Quand on veut poser un acte, on se pose des questions. Est-ce que c'est compatible avec l'environnement ou pas? C'est-à-dire être plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Pour considérer pas l'environnement seulement comme un réceptacle où on doit jeter les déchets, et parce que jeter les déchets, mais est-ce que l'environnement, cet environnement peut supporter cette quantité de déchets-là? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut trouver un juste milieu entre l'environnement qui est responsable des déchets et l'environnement aussi qui doit avoir d'autres qualités, tout ça. Alors, si on n'est pas éco-citoyen, on pense que l'environnement peut tout supporter. À un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle en écologie des déséquilibres. Déséquilibre, là...
C'est ce que nous vivons en ce moment. Dans
oui. C'est à ce moment-là que l'homme se rend compte que non, la vie devient impossible. Et on peut éviter les équilibres si on agit en harmonie avec l'environnement. Donc il faut être un éco-citoyen, un citoyen responsable de vertir l'environnement. C'est un peu ça. Et ça doit commencer à tous les niveaux. Et les écoles de l'école primaire, secondaire, tout ça, au niveau des familles, tout le monde doit être éco-citoyen. Parce que les actions de l'environnement, pour que ça donne un effet, il ne faut pas seulement attendre les gouvernements. Ça doit être une action collective, individuelle, qui commence au niveau de la base. Et bien sûr, avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des décisions politiques, on peut aller de l'avant. On peut être dans un environnement qui est serein, avec des qualités, et on vit de manière paisible dans cet environnement-là. Dans les cas contraires, l'environnement va reprendre ses droits, et c'est l'homme qui en souffre. Des maladies, de beaucoup de choses, et voilà.
Des inondations, des érosions.
Des érosions, voilà.
La chaleur.
Oui, la chaleur. Tu vois, on est pendant une période sèche, mais on se demande parfois si la période est sèche ou pas. Il fait très chaud, il pleut, tout ça. Les gens disent, mais les gens qui vont être. C'est ça, mais c'est le déséquilibre. On a créé des déséquilibres et l'environnement, maintenant, on ne sait plus le contrôler. On ne sait plus dire quelle est la période pour l'équité, quelle est la période pour l'équité, parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé à cause des actions de l'homme sur l'environnement.
Donc, nous devons revenir aux fondamentaux, poser des actes éco-citoyens, responsables, des actes qui concourent à la préservation, à la protection de l'environnement.
Tout à fait. Poser des actes responsables vis-à-vis de l'environnement. Devenir un éco-citoyen.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
C'est par ici que s'achève le magazine Éco du développement consacré à l'importance de mener des actions de protection de l'environnement et les bons gestes à poser pour protéger cet environnement. Soyons des éco-citoyens comme l'a suggéré le professeur Matemouerou Jean-Pierre, secrétaire général académique de l'ERAIFT. Tati Mapoukou était à la présentation avec la collaboration de Jean Kassabi depuis la ville de Bukavu. Jean-Marc Matouaki a coordonné et supervisé cette émission. Jean-Noël Mokondo a assuré la prise des sons. À bientôt.